Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Cette semaine, nous avons entrepris une série sur l'impact de la culture. Aujourd'hui, pour cette quatrième et dernière partie, nous allons identifier certains défis qui sont reliés à l'émergence d'une culture. Cette série est basée sur une recherche de Claude Deblois et Lise Corriveau sur la culture de l'école secondaire et le cheminement scolaire des élèves. Nous allons voir par cette étude de Deblois et Corriveau que certains défis sont à considérer dans la dynamique d'une culture et nous conclurons la série en considérant qu'une culture est plus puissante qu'elle en a l'air. Le dernier élément à considérer avant de procéder à la conclusion est le concept de défi. Le manque d'attachement à son milieu est lié au manque de valorisation et aux règlements qui ne sont pas bien dosés. Voici ce que les auteurs ont à dire à cet effet. On aime l'école pour l'environnement social ou on ne l'aime pas parce que les occasions de se valoriser sont peu nombreuses ou encore, on est plus souvent ambivalent à propos des règlements. C'est ce qu'on peut lire à la page 187 de cette étude. Pour ce qui est de la question des règlements, les auteurs considèrent qu'ils sont importants. C'est important d'avoir des règles, mais ils doivent être, ces règlements, contributifs, pertinents et peu nombreux. L'autre point qui est soulevé est que l'attachement au milieu est rattaché au sentiment de valorisation. Si on ne se sent pas à sa place, si on ne se sent pas valorisé ou apprécié, on demeure attaché à notre milieu, mais à défaut, le désir de décrocher nous guette. On peut être présent, d'autres mots, on peut être là, mais notre cœur n'y est pas, puis tôt ou tard, eh bien, il va y avoir un décrochage. Il y a donc une corrélation entre l'amour qu'on a pour notre milieu et la valorisation qu'on en retire. Prenez par exemple les martyrs qui ont persévéré à garder la foi parce que la valorisation qu'ils recevaient des dieux était plus grande que celle qu'ils pouvaient recevoir de l'État. Un autre défi est de gagner la confiance. Et donc, c'est un défi qui attend les leaders. Les leaders sont appelés à gagner la confiance, justement, des membres de leur équipe. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'école C? Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi la série jusqu'ici, l'étude est concentrée sur trois écoles et pour éviter de les identifier, on les a appelées A, B, C. Et donc, la direction, en ce qui concerne l'école C, la direction n'a pas gagné la confiance des élèves et la communication entre les deux serait inexistante. C'est ce qu'on nous dit à la page 188. Et donc, c'est important parce que la confiance est directement reliée à la communication. Et la communication entre la direction et les membres de l'équipe, ou entre la direction et les élèves, ou donc les participants, dans une entreprise, ça peut être des clients, dans une église, ça peut être les fidèles. Eh bien, à ce moment-là, la communication repose, si on veut qu'elle soit efficace et qu'elle produise, si on veut, du fruit, si on veut que les objectifs, puis ce qui est visé dans la mission de cette entreprise-là, de cette organisation, de cette communauté-là, puisse avoir de l'impact. Mais il faut qu'elle est basée, elle est reliée directement sur la confiance qu'il y a justement entre les parties. Il y a un autre élément physique, un autre élément qui n'est pas à négliger, ce sont les éléments physiques, justement. Dans quel sens? Le bâtiment, les locaux. Et ce qu'on nous dit à la page 210, c'est un lieu physique aseptisé nuit au développement d'une culture. Et donc, c'est important que les lieux physiques soient simples d'accès, soient propices à la libre circulation, soient le plus accessible possible aux membres de la communauté, puis que ça puisse générer une dynamique communautaire. Et ça, c'est un défi important. Si les portes du bâtiment, par exemple, sont toujours barrées et que c'est très, très difficile d'y avoir accès, eh bien, il va y avoir peu de dynamisme. Il faut que, en d'autres mots, comment je pourrais vous illustrer ça, c'est comme, il faut que le bâtiment le lieu de rencontre de la communauté, soit comme une ruche d'abeilles qui ait un va-et-vient continuel. Ça incite, ça génère une dynamique, ça génère un va-et-vient qui est sain. Et en conclusion, et on va voir par les éléments qui sont cités dans l'étude, qu'une culture, ça a énormément d'impact. Pourquoi? Parce que le rendement est intimement associé à la culture d'une organisation. C'est ce qu'on voit à la page 199. Si je paraphrase une citation de Mitchell et Willover, que l'on retrouve dans cette étude, ça nous dit qu'une culture organisationnelle forte conduit à la réalisation des objectifs organisationnels. Et donc, la réalisation des objectifs organisationnels, les objectifs de l'organisation, de la communauté, eh bien, elle est reliée à une culture forte. Plus que la culture est forte, plus qu'elle est homogène, puisque justement, les valeurs sont largement partagées, et plus qu'il va y avoir un impact. En d'autres mots, la culture d'une organisation nous amène là où elle s'en va. Si, par exemple, dans la culture québécoise, on n'a plus de repères judéo-chrétiens, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? On va rejeter le christianisme. C'est mathématiquement inévitable. Pourquoi? Parce que, comme on le voit à la page 202, la culture, c'est l'âme qui habite le milieu. La culture organisationnelle en milieu scolaire, c'est en quelque sorte l'âme qui anime la vie quotidienne d'un groupe de professionnels engagés dans la poursuite d'objectifs communs. C'est ce que nous dit Deblois et Corriveau. La motivation à participer à la vie d'un milieu. Et donc, cette âme-là produit une motivation à participer à la vie d'un milieu. Selon Deblois et Corriveau, l'efficacité ou la réussite scolaire doit inclure ceci, mesdames et messieurs. Écoutez bien. L'attitude des élèves envers eux-mêmes et leur école, leur motivation à venir à l'école et à y faire des apprentissages, leur joie d'y être, les aspirations et les intérêts qu'ils y développent, les relations qu'ils établissent avec le personnel, l'épanouissement d'un talent particulier, scolaire ou autre, leur apprentissage de l'autonomie, etc. La réussite des élèves concerne tous les aspects de leur développement, intellectuel, moral, physique que social. C'est ce qu'on voit à la page 215 et 216. Et donc, considérant la motivation à participer à la vie du milieu, eh bien, il faut que ça soit un lieu qui est justement enrichissant. Enrichissant sur tous les aspects. Il ne doit pas être seulement enrichissant sur l'aspect moral, pas seulement sur l'aspect physique, pas seulement sur l'aspect intellectuel, pas seulement sur l'aspect social. Il doit être enrichissant à tous ces niveaux-là. C'est ce qui va faire qu'une culture va être forte, va être dynamique et va avoir de l'impact. Et c'est important, en tant que leader, de s'arrêter sur ces éléments-là. Et quels sont les éléments qui sont stimulants dans notre culture organisationnelle, dans la culture de notre organisation, de notre communauté, de notre entreprise, de notre église? Quels sont? Est-ce que c'est stimulant intellectuellement? Est-ce que c'est stimulant moralement? Est-ce que c'est sur le plan physique, donc le plan des déplacements, sur les locaux, est-ce qu'ils sont inspirants? Moi, je dis toujours à la blague que les locaux motivent. Hein, la couleur des murs, la décoration, est-ce que c'est invitant? Est-ce que ça invite, par exemple, est-ce que les lieux de recueillement, l'organisation, en d'autres mots, entre guillemets, le design, est-ce qu'il est conçu pour se recueillir? Et l'aire de jeu pour les jeunes, est-ce que c'est conçu pour s'amuser, etc.? Et l'univers social, est-ce qu'on est continuellement isolé? Est-ce qu'on est tout simplement un rassemblement d'individus où il y a un impact, il y a une dynamique collective qui est générée dans l'organisation, dans notre milieu, dans notre communauté? Inévitablement, comme on voit à la page 217, ça engage le personnel. S'il y a du personnel engagé, s'il y a des bénévoles engagés, eh bien, ça va générer une dynamique, une culture forte. Qu'est-ce que nous dit Deblois et Corriveau à cet effet? Ça dit que la stabilité des personnels de l'école, l'atmosphère de respect, de confiance, de chaleur et d'ouverture qui est bien établie, l'engagement et la participation des enseignants et des élèves dans les différentes activités scolaires et parascolaires, des attentes élevées de la direction, et du personnel enseignant à l'égard des élèves, largement partagé et appuyé par les parents et, qui par surcroît, des installations physiques adéquates semblent favoriser la réussite scolaire dans cette école. Et il y a beaucoup de stock là-dedans. La stabilité des personnels de l'école, l'atmosphère de respect, de confiance, de chaleur et d'ouverture qui est bien établie, l'engagement et la participation des enseignants et des élèves dans les différentes activités scolaires et parascolaires. Donc, il y a un engagement, il y a une présence active qui est là. Des attentes élevées de la direction et du personnel enseignant à l'égard des élèves. En d'autres mots, ce n'est pas une culture de broche à foin. Ces attentes élevées sont largement partagées et appuyées par les parents. Donc, si vous n'êtes pas dans une école, vous êtes dans une organisation, tous vos partenaires sont d'accord, sont unanimes parce que les objectifs, le but, la mission, la vision, les gens y adhèrent. Ils sont prêts à payer le prix, ils sont prêts à aller dans cette direction-là parce qu'il y a une motivation. Il y a une culture organisationnelle qui incite à aller dans cette direction-là parce que c'est clair, c'est défini, c'est motivant et c'est stimulant. Et évidemment, des installations physiques, donc ces installations sont adéquates et semblent favoriser la réussite scolaire dans cette école. Parce qu'ils sont, conçus en fonction justement de la dynamique et des objectifs. En terminant, nous sommes portés à reconnaître l'existence, c'est ça que nous dit De Blois et Corriveau à la page 216, nous sommes portés à reconnaître l'existence de liens entre une culture organisationnelle forte et dynamique et la performance scolaire. Vous savez, mesdames et messieurs, la culture de notre organisation, de notre communauté, de notre entreprise, de notre école, de notre église, a un impact. Et comment qu'on évalue ça? On a juste à juger le résultat. Est-ce qu'il y a un enthousiasme? Est-ce qu'il y a une rétention? Est-ce qu'il y a une croissance? Est-ce qu'il y a une croissance numérique? Est-ce qu'il y a une croissance en termes de développement? Est-ce qu'il y a une croissance personnelle des membres? Est-ce que le niveau de joie, d'enthousiasme grandit s'il n'y a pas une croissance numérique, par exemple? Est-ce qu'il y a une détermination qu'on peut remarquer? Est-ce que les gens sont solidaires? L'impact de la culture, notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de voir les choses, produit un impact. Ça peut produire un impact négatif, ça peut produire un impact qui est stérilisant, ça peut produire un impact qui est motivant, qui est dynamique. Mais le drame, mesdames et messieurs, c'est qu'au dire de De Blois et Corriveau, beaucoup d'écoles semblent avoir perdu le sens de la tradition ou ne pas en avoir développé une très forte. La culture d'un milieu, c'est ce qui donne vie à ce milieu. Et qu'on le veuille ou non, chaque organisation a ses traditions, a sa façon de faire, a ses procédures qui sont irrévocables, irrémédiables, qu'on ne remet pas en question. Certaines sont saines, certaines doivent être réévaluées. Et si je regarde au sens plus large, au Québec, dans la société québécoise, dans la nation québécoise, on a rejeté justement le fondement du christianisme. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Petit à petit, on est en train de se dissocier de toutes les valeurs qui nous rappellent le christianisme. Et c'est pour ça qu'en tant que société, on doit revendiquer et on doit demander à nos leaders de mettre en valeur notre patrimoine qui est relié à ces valeurs judéo-chrétiennes. On est une nation qui a été bâtie sur des valeurs judéo-chrétiennes. Jacques Cartier est venu planter des croix ici. Il y a des Huguenots qui ont traversé l'Atlantique pour venir s'établir ici puis vivre en paix. Il y a toutes sortes de communautés chrétiennes qui se sont établies au Québec, qui ont vécu dans une liberté. Effectivement, il y a eu des temps où est-ce que cette liberté, elle était mitigée, ou du moins, pour certaines communautés chrétiennes, il y a eu des époques où est-ce que cette liberté, elle était très, très restreinte. Mais il reste que dans notre nation québécoise, il y avait des points de repère assez clairs. Et maintenant, on est en train de s'en débarrasser. Et c'est pour ça que moi, je tiens à des symboles qui semblent anodins, parce qu'ils font partie de notre culture, ils sont des repères auxquels on peut s'identifier, des repères qu'on peut justement se servir pour enseigner, pour proclamer et pour faire référence à des éléments de notre histoire qui sont importants. La croix sur le Mont-Royal, par exemple, pour ceux qui sont dans la région de Montréal. Pour moi, c'est un symbole important parce qu'on peut y faire référence. La fête de Noël, on peut faire référence à la nativité. La fête de Pâques, on peut faire référence à la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'action de grâce, on peut faire référence justement à notre Dieu envers qui on est reconnaissant pour tout ce qu'on reçoit et qu'on ne mérite pas. Ces éléments sont importants dans notre culture. Et si justement on les dynamise, et si l'Église les dynamise, ça peut devenir une occasion de célébrer et de ramener une joie importante qui accompagne nos valeurs et nos croyances. Et spécifiquement, des valeurs qui sont attirantes parce qu'elles sont remplies d'enthousiasme à cause de l'espérance qui est attachée à la vie à laquelle on est appelé. Alors, c'est déjà le temps de clore cette émission. J'espère que cette série sur l'impact de la culture vous a plu. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. N'oubliez pas, cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Nous serons de retour en ondes lundi à 8h05 et à 20h05 pour un autre tour d'horizon. Je vous dis donc merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année car nous allons être de retour en ondes lundi prochain en 2016, soit le 4 janvier. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!